With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Aujourd'hui, on va vous parler du CES et de tout ce qui s'y est passé. On va aussi faire un petit détail de The AI Époque, l'époque de l'intelligence artificielle. Et puis, on va surtout pas parler du 6 janvier au Brésil, mais on va parler aussi de LastPass et de tout plein de choses comme ça. C'est parti pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. C'est le premier épisode en live de 2023. Je suis là en forme malgré une attaque de miasme pendant les vacances qui m'a presque terrassé. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais à peine. On est là, on est fort, on est vaillant et je suis très heureux d'être avec Cédric Ingrand qui lui aussi a survécu aux vacances. Comment vas-tu, Cédric?
J'ai eu la chance incroyable de pas tomber malade pendant les vacances, qui est une espèce de luxe, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'impression d'avoir tiré le bon numéro. Tout le monde était malade, même chez moi, même le chien a fini à 3 semaines pour arrêt. Je te promets, je te jure que c'est vrai. Ça fait, il a 10 ans, mais je l'avais jamais vu tousser à part un petit achou, tu vois. Et là, le pauvre, il avait une espèce de toux. On lui disait mais arrête la clope, quoi. Et voilà. Donc je suis ravi d'avoir passé cette épreuve et je dois dire que le nombre de gens malades autour de moi, c'était impressionnant.
Bah écoute, moi j'étais pas autour de toi, mais j'étais malade quand même. Et si jamais vous entendez une toux inquiétante venant de moi, j'essaierai de me muter discrètement. Mais oui, ça risque. J'ai un reste de Covid qui est intermittent, mais peut-être que quand je vais parler, tu vois, ça va faire ressortir du fond de la gorge cette toux terrifiante. Donc je m'en excuse par avance. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de remède à ça. J'ai des remèdes à mon setup audio qui devrait fonctionner mieux que les dernières fois. Comme je le disais avant de lancer l'enregistrement, j'avais genre 14 problèmes dans mon setup. J'en ai réglé genre 12. Donc, ça devrait
pas
fonctionner.
C'est un début.
C'est un bon début. Mais écoute, moi, je suis très heureux de te retrouver. Je suis très heureux de retrouver les auditeurs qui vont nous écouter en podcast et qui nous écoutent en live sur Twitch pour le premier live de l'année. Bonjour à tous. On a un beau programme, des choses intéressantes et assez peu de choses extrêmement controversées. Mais
C'est rare.
Mais alors, on va parler du CES parce que forcément, on est obligé de parler du CES. C'est un passage incontournable. Mais on va aussi parler d'intelligence artificielle. Je crois que ce qui se passe là dans l'intelligence artificielle, c'est les conséquences évidemment de ce qui s'est passé l'année dernière. Mais ça s'accélère, quoi. C'est de plus en plus excitant. Vous allez voir, on en parlera. Avant, évidemment, je veux remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui ont profité de ces 2-3 semaines et des épisodes spéciaux pour devenir patriotes. Donc, un grand, grand merci à Simon Boisvert, Syl de Hobbes, Flavien Henrion, JCM Paris et Sebo, ainsi que les producteurs SSI78 et Peter Rigal. Merci à vous tous. En ces temps où être créateur de contenu est un petit peu compliqué, vous faites vous rendez cette émission possible et vous m'amenez une sérénité que je ne pourrais pas avoir autrement. Donc un grand grand merci à vous tous et merci de me permettre de commencer cette année avec peut-être un petit peu moins de, même si bon je me demande ce qui se passe, mais moins peut-être que d'autres camarades pour qui c'est un petit peu compliqué dans cet environnement en ce moment. Mais grâce
qu'est-ce
à vous,
t'inquiète,
tout va bien. L'économie affecte la... ferai peut-être un petit édito d'ailleurs sur ce qui se passe autour de l'économie des créateurs de contenu. Il y a eu plusieurs articles disant « Ah voilà, les podcasts c'est fini, c'était hypé, ça... » Alors évidemment, c'est exagéré, mais...
Toujours.
On en parlera peut-être à un moment dans cette émission. Les gens s'inquiètent pour l'économie des créateurs en général, parce que, évidemment, l'économie des créateurs se repose sur deux choses. Le soutien des auditeurs, spectateurs, viewers, twitchers, tout ça, et la publicité. Et la publicité est affectée par l'économie qui fait que les annonceurs sont frileux, et les soutiens par auditeurs, tout ça, sont affectés par l'inflation et l'incertitude dans l'économie en général aussi.
Bien sûr.
Donc, quand t'as pas un CDI, alors encore une fois, moi, j'en parlais au soutien, heureusement, j'ai un petit peu de marge, mais c'est quand même... alors, j'ai des gens à payer, tu vois, par exemple, j'ai des collaborateurs, etc. Et puis pour moi aussi, donc ça va encore, hein, je vous dirai le jour où ça va pas, je vous lancerai un petit à l'aide, s'il vous plaît, mais les gens commencent à s'inquiéter, tu vois, et j'entends de plus en plus de préoccupations, et surtout tous ceux qui sont juste, tu vois, qui arrivent juste à faire sortir suffisamment pour payer les pattes, ils commencent à se demander ce qui va se passer dans les mois à venir. Alors, ils peuvent peut-être tenir encore quelques mois, un an, quelque chose comme ça, mais si ça continue. Alors, heureusement, on nous dit que 2024, ça devrait aller mieux, mais cette année risque d'être un peu serré, quoi. Mm-hmm. On va dire les choses comme ça. Mais donc, tout ça pour dire, les patriotes, je vous adore encore plus que d'habitude. Je vous aime toujours, hein, mais encore plus que d'habitude. Et voilà, donc, pour cette petite parenthèse perspective financière de début d'année pour l'économie de la création de contenu. Mauvaise nouvelle, quand même, pour les fans de l'émission. Étant donné que mon moteur audio sur le Mac souffle quand je mets tous les outils que j'utilise d'habitude, et ben là, il y aura pas non plus les jingles, parce que je suis sur le Mac aujourd'hui, donc je sais que les gens sont déçus de ne pas avoir les jingles de l'émission. Et Cédric, premier d'entre eux. Tu es
évidemment
triste. Évidemment. Donc, sans transition entre ces remerciements très chaleureux des nouveaux patriotes qui nous ont rejoints, oui, patreon.com/rdvtech, et les producteurs qui sont toujours présents et vaillants, merci à vous tous, eh bien, on va parler du CES. Non, le jingle, je le fais pas bien. Du CES. Alors, tu étais pas, toi, tu fais plus partie des gens qui vont au CES.
T'as vraiment très, très mal choisi ton chroniqueur cette semaine, parce que c'est la première fois, je pense, depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire quelques années déjà, que j'y suis pas allé. C'est-à-dire que j'ai interrompu une série de 15 années. Mais j'ai quand même regardé, parce qu'évidemment, les deux années précédentes étaient un peu tristounes, disons-le. C'était un peu, c'était du redémarrage un peu lent. Mais non, là, ça ressemblait... J'ai des camarades, des confrères, des gens que je connais, plein de gens y étaient d'ailleurs, qui m'ont envoyé des messages. Il y en a un qui m'a dit « Oh, c'est mort, il n'y a personne. » Bon, j'ai vu les chiffres, il y a plus de 100 000 visiteurs. Ça va, c'est pas les 180 000 de la plus grosse époque. Mais enfin, ça avait un petit côté bubule parfois à l'époque. Tu vois, quand les régions françaises se tiraient la bourre pour savoir laquelle aurait le plus de start-up, enfin, ça n'avait pas de sens. Et pour le coup, voilà, CIS a retrouvé... à la fois ces murs, parce qu'en fait il y a des choses qui ont changé aussi, ça c'est un peu inside baseball, mais sur les espaces d'exposition, et puis sa fonction première qui est de montrer tout ce qui pourrait sortir dans l'année à venir et au-delà.
Alors justement, on n'est peut-être pas au retour des grands CES où il se passait plein de trucs incroyables, mais il y avait quand même quelques trucs intéressants. Et je dirais que c'était des domaines relativement classiques, quoi. Il n'y a pas eu de grandes surprises, genre comme on avait parfois à une certaine époque, le truc super bizarre qu'on voit au CES et qui en fait ne sortira jamais, qui servira à rien, mais qui fait un bon sujet pour le 20h pour faire rigoler les gens qui croient pas trop en la tech. Mais il y avait quelques trucs intéressants quand même. Bien sûr, des trucs sur les voitures, il y en a quelques-uns dont on pourra parler. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses au niveau des écrans. Et notamment, on va aller dans l'ordre, mais l'écran étirable de Samsung, qui est vraiment du domaine du... Enfin, on n'est pas dans le prototype, hein, parce que ça fonctionne véritablement. Mais ça reste, l'usage, on va dire, est encore un petit peu incertain. Ce qu'ils ont présenté, c'est une sorte de tablette livre qui se ferme. Et quand tu ouvres l'écran, c'est déjà donc un écran pliable. Donc, t'as un écran à l'intérieur de cette tablette qui est donc pliable et qui a un écran de taille raisonnable. Hein, ça doit faire un bon 12 pouces, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, il y a un côté de cette tablette sur lequel tu peux tirer et qui donc, en plus d'avoir un écran pliable au milieu comme on en connaît déjà beaucoup, eh ben, t'as une sorte de petit écran enroulé au bout du truc qui te permet d'agrandir, alors pas de beaucoup, hein, tu agrandis de 4 cm, 3 cm, quelque chose comme ça, mais d'agrandir la taille de la tablette. Donc, c'est pliable, classique et étirable en plus. Alors, est-ce que ça va vraiment
ça
servir
le...
parce que c'est un peu anecdotique,
mais oui. Mais non, c'est important. Ça résout le problème de la pliure. On a envie de faire des choses qui se replient. Le problème, c'est que moi, je me souviens de la complexité des premiers mécanismes pour gérer l'écran sur les premiers smartphones repliables, etc. C'était un truc, c'était de l'orfèvrerie absolue avec des petits. Parce qu'évidemment, l'écran étendu à l'extérieur du téléphone plié et à plat ne fait pas la même, ne doit pas faire la même dimension. Donc c'était très dur à gérer. Donc avoir un petit peu de mou, j'ai envie de dire, dans la corde à nœud, fait que voilà, tu vas pouvoir t'adapter à des formes un peu différentes. On est d'accord sur le fait que ce qu'ils ont présenté est plus une technologie qu'un produit. Mais non, c'est intéressant et ça ouvre de nouveaux horizons. Même si, comme toujours, c'est-à-dire que tu vois, il y a toujours cet effet retard. On te montre un truc, tu dis, ouais, c'est génial, ça va tout casser. Tu vois, je me souviens des papiers, genre, que va faire l'iPhone qui n'est même pas pliable, hein, tu vois, et finalement, avec le recul, bon, ces technos ont l'intérêt, ça permet de faire des nouvelles choses. Est-ce que tout remet à plat tout le marché à chaque fois? Non. Ça, on le voit bien quand même avec un petit peu de recul. Donc voilà. Mais ça va ouvrir des nouvelles capacités, des nouveaux, voilà. Et puis de l'imagination pour tous les gens qui sont, parce que c'est pas un truc qui va être réservé aux produits Samsung, loin de là. Là, c'est la division de Samsung Display
d'écran,
qui fait ça. Donc, vous allez le retrouver. C'est pas mal pour. Je sais pas. Il y a plein d'usages possibles, imaginables, même sur des trucs professionnels qu'on verra jamais vraiment nous. Mais voilà, c'est une chouette techno. Et puis surtout, c'est la réalisation encore d'une promesse qui date de. Moi, je me souviens de. À l'époque, c'était Philippe, je crois, qui faisait, tu vois, des e-books avec des écrans enroulables. Le truc qui dans le monde réel n'a jamais pris. Enfin, je dirais, ils ont jamais essayé de le vendre, mais c'était une chouette techno. Bon, voilà, c'est la technologie qui avance, mais d'autant que sur l'affichage, sur le display, les technologies avancent finalement assez lentement. Tu vois, t'as pas une révolution copernicienne tous les ans sur le marché du LCD, non, du LED, du QLED et du reste, quoi.
Bah là, effectivement, c'est une implémentation qui fonctionne d'un écran. Alors, je sais pas s'il est complètement enroulable, genre il se transforme en rouleau, ou si c'est simplement, tu vois, un truc qui est plié et il le déroule, mais c'est clairement un truc qui est pas juste une pliure, mais qui peut se dérouler. Donc, ça, c'est intéressant. On verra les applications dans quelques temps. Mais là où ça se met en perspective un petit peu, c'est la manière dont... C'est qui ? C'est Lenovo qui a présenté un produit qui est en vente, là, pour le coup, qui est le X1 Fold, je crois, qui est en fait... une sorte de grande tablette. Là, pour le coup, c'est une tablette qui doit faire, je sais pas, qui est dans les 16 pouces, quelque chose comme ça, peut-être 15 pouces. Et on peut donc l'appli... Mais c'est une tablette qui fait tourner Windows. Donc, c'est une vraie tablette sous Windows, Windows 11. On peut la plier. Du coup, on peut la refermer comme un laptop. En fait, je dis une tablette, mais c'est un laptop. C'est juste que tout l'écran, toute la surface est un écran. Et donc, on peut la replier. Si on la replie, ben, on peut faire sortir un écran virtuel qui nous permet de taper comme sur un laptop. Donc là, déjà, on se dit, bon, c'est une tablette qu'on peut utiliser comme un laptop. C'est un full Windows 11, etc. Et en plus de ça... on peut lui adjoindre un clavier sur la partie donc basse, on va dire, du truc replié, qui est un clavier, qui est un vrai clavier de laptop complet, qui vient se connecter magnétiquement à l'appareil et qui te le transforme, pour le coup, vraiment en laptop. Là, tu n'as pas de distinction, enfin, à première vue comme ça, tu as vraiment l'impression de voir un laptop. Et tu peux en plus poser l'écran sur un support qui va t'en faire donc un écran un petit peu plus grand. Et tu peux utiliser le clavier, qui est en sans fil, du coup, en parallèle de cet écran, et l'écran, tu peux le mettre en horizontal ou en vertical, enfin en paysage ou en portrait, et donc c'est une sorte de flexibilité absolument incroyable. Et en plus de ça, quand tu replies l'écran, tu peux poser le clavier sur le support qui se replie lui aussi, le support avec le clavier sur l'écran replié, et donc ça devient un truc éminemment portable qui a une flexibilité absolument incroyable. Alors après, il faudra voir, il est un petit peu épais hein, quand t'as tous les trucs l'un sur l'autre, évidemment c'est un petit peu plus qu'un ordinateur portable très fin. T'as aussi un stylet. Bref, il y a plein d'utilisations. C'est le flex ultime, donc l'utilisation flexible ultime.
C'est le couteau suisse, quoi.
C'est ça. Donc, c'est transformateur dans le sens où c'est l'application des écrans pliables, quoi, qui fonctionne vraiment.
Ah ouais. Mais c'est intéressant de voir des choses qui enfin se réalisent, quoi. C'est-à-dire que, mais ça donne une idée, par exemple, du temps qu'il va falloir pour ce dont on se parlait sur Samsung, là. Temps qu'il va falloir entre, tu vois, le prototype, la techno, le machin, l'application, l'industrialisation, la vente, et ça y est, c'est en magasin. Il faut toujours un petit peu de temps.
Dieu sait depuis combien de temps on nous parle des écrans pliables. Là, ça arrive enfin. Les écrans enroulables, c'était les télés qui commençaient à arriver l'année dernière. Bref, il y a d'autres choses, d'autres versions super, pliables et multi-usages d'ordinateurs. Il y a un autre, Lenovo, qui est en fait deux écrans collés l'un à l'autre et qui sont... Oui, c'est ça, exactement. Les versions yoga. Bon, ça, c'est une autre application extrêmement. Ça ressemble un petit peu à celui dont on vient de parler, sauf que c'est vraiment deux écrans. C'est pas un seul écran pliable. Ouais. Donc c'est une version, on va dire, peut-être un petit peu moins impressionnante. Il y a une version modulaire aussi, toujours chez Lenovo, qui s'appelle le ThinkBook 16P, où on peut avoir des accessoires genre une meilleure webcam, une connexion LTE, etc. Il y a aussi un retour de la 3D. Ça, c'était un petit peu inattendu. Avec le nouveau VivoBook de Asus, qui est un ordinateur portable avec écran 3D, comme ceux qu'on avait vus il y a quelques années déjà. Sans lunettes, tu fais bien de le préciser. Écran 3D sans lunettes, sauf que la technologie d'écran a tellement progressé, on a tellement plus de finesse et de qualité dans les écrans, que pour le coup, ça convainc les journalistes qui l'ont vu, là où c'était pas forcément le cas sur les écrans 3D sans lunettes jusqu'à maintenant. On a une clarté, une précision. Alors, c'est pas non plus une utilisation pour le commun des mortels, mais pour des utilisations professionnelles, ça peut être intéressant. Et surtout, c'est une technologie 3D sans lunettes qui est hyper convaincante, quoi.
Ouais, mais pour avoir subi les avancées successives des écrans 3D sans lunettes, le genre de truc où pour la démo on disait non monsieur, faut être debout sur le X qui est là. Ah bon, ça marche pas si vous mettez de côté, non, c'est mort. Ah d'accord, très bien. Et c'est moyen, mais oui, et c'est très cher. Hein. Ah d'accord, vraiment, on est content. Mais c'est amusant parce que c'est juste la capacité à polariser le truc pour que ton œil voit un pixel et ton autre œil en voit un autre. Et c'est intéressant parce qu'il y avait c'était Sharp, je crois que c'est Sharp, oui, qui il y a bien longtemps au Japon avait fait une utilisation complètement différente de la même technologie. En fait, ils avaient imaginé un téléviseur à mettre dans ton salon, mais qui permettait schématiquement, et si je caricature un peu, à monsieur et madame de ne pas regarder la même émission.
Oui, je m'en souviens de
voilà.
ça.
Monsieur regardait le foot, madame regardait un soap-opéra, là encore caricature totale.
Voilà.
En tout cas, c'était ça la démo, et c'était à la fois génial et assez terrible, parce que monsieur et madame étaient à peu près à côté les uns l'un de l'autre, mais chacun avec un casque, évidemment, pour pas. Donc, en fait, personne ne se parle. Enfin, c'était une espèce de... C'était à la fois ébouriffant et d'une tristesse absolue.
D'ailleurs, ils utilisent du eye tracking, du tracking de d'œil.
Pour adapter. C'est bien foutu.
Ouais. Donc. Il y a aussi une télé, il y a beaucoup de télé, hein. Il y a télé sans fil. Télé sans fil, genre entièrement sans fil. Qui est-ce qui fait ça?
Il y a LG et puis une start-up
Displace. Voilà, Displace. Et donc, c'est une télé qui, en plus, a une sorte de support qui peut s'accrocher à n'importe quel mur. Je ne sais pas si ça marche avec des ventouses ou un truc comme ça, mais on peut juste la poser sur différents supports. Et elle marche, du coup, sans fil. Et sans pile, mais batterie hot swappable, donc uh-huh. et elle est censée fonctionner, genre ils disent elle fonctionne un mois 6 heures par jour, enfin bon, ça je demande à voir quand même.
C'est assez dingo, hein. Mais alors là aussi, c'est est-ce une solution en attente d'un problème, tu vois?
Ouais.
C'est-à-dire que si t'as, ça, je vois très bien à quoi ça peut servir sur. Tu vois, des trucs un peu bêtes, enfin des configurations compliquées où t'as pas la bonne prise, le bon truc pour un événement, pour un machin, ou pour
exactement,
mettre la télé à un endroit où t'en as besoin, dans une salle de réunion, dans un truc où tu la mets une fois de temps en temps. Après, te dire, t'as un mois de batterie, ouais, si t'as un mois de batterie, tu peux tirer une multiprise, enfin, tu vois, c'est pas...
Non, mais c'est exactement ce à quoi ils destinent ce genre de truc, c'est soit pour des bureaux, soit pour des événements, soit pour... Donc, on est dans la technologie impressionnante, mais pas non plus dans l'utilisation pour le consommateur final immédiate, quoi. Donc ça, c'était... Mais c'est des télés, c'est quoi, du 40 pouces, quelque chose comme
Non, c'est des vraies télés. Après, ça peut résoudre le problème si vraiment t'en es là, si tu veux, t'as un petit côté Steve Jobs, genre je ne veux que des murs blancs, rien qui dépasse, etc. Là, t'as coup de fait, tu peux ventouser ton truc à la vitre, il n'y a pas un câble qui sort, c'est chic. Vrai. Bon, après, il va falloir que tu recharges une batterie, que tu fasses
c'est ça le problème.
Bon, c'est un petit côté... Bon, après, ça a les inconvénients de ses avantages, mais c'est vrai que la bataille des constructeurs contre les câbles, elle est constante, elle date pas d'hier, enfin c'est donc de ce côté-là, c'est une réussite. Après, je sais pas, ou alors faut intégrer dans le mur un truc qui la recharge par induction, mais si tu veux, si t'en es intégré
oui,
un truc
là,
dans le mur, t'as déjà fait la moitié du chemin.
Ça,
quoi,
oui. Exactement, autant mettre un câble. Il y a aussi, du coup, on parlait de voitures, il y en a une qui m'a particulièrement frappé, c'est la BMW. Alors Sony a aussi présenté sa voiture avec c'est Toyota, je crois, ou Honda.
Oui, Honda.
Oui. Mais la BMW, comment elle s'appelle? C'est la e-Vision
la X. Oui.
C'est la version d'avant qui était noir et blanc. Là, en fait, c'est une voiture qui est recouverte d'écrans e-ink couleur. On avait l'année dernière la version noir et blanc. Et là, c'est des écrans e-ink couleur. Alors, il y a quand même une dose d'ingénierie dans le truc, hein, parce que pour vraiment toute la carrosserie est recouverte d'écrans e-ink. Donc, il y a des endroits où il a fallu vraiment adapter l'écran aux courbures, aux machins. Donc, ça, c'est intéressant techniquement. Mais surtout, c'est une voiture qui peut, pour le coup, changer de couleur. C'est clairement un concept, hein, parce que je crois que
je suis en train de chercher le générique de Barba Papa, là, mais
c'est un peu ça.
Il se transforme à volonté.
Mais c'est impressionnant à voir quand même.
Oui, t'as fait. C'est... Ouais. Enfin, je pense que ça a rempli sa fonction, qui est de faire en sorte qu'il y ait des papiers sur BMW.
Ouais.
Parce que, enfin, je veux dire, probabilité que ce truc arrive en concession, proche de zéro, chef. Et moi qui suis en train d'essayer de faire changer une aile de ma voiture, là, je suis tellement heureux de pas avoir ce genre de choses. Alors déjà qu'il y a un problème pour avoir des pièces en ce moment, si tu veux. Ah ouais, non mais attendez, monsieur, vous savez, le e-ink, c'est très compliqué. Non, laisse tomber. Ils n'ont fait qu'imaginer ce qu'on pourrait faire, tu vois, en termes de couleurs et de machin, etc. Par contre, imagine. Enfin, moi, j'ai eu pendant il y a bien longtemps, j'avais imaginé avec mon cousin favori un appareil que tu mettrais sur la lunette arrière de ta voiture et que tu puisses commander pour envoyer des messages à la voiture qui est derrière, genre chéri, freine, arrête de me coller,
ralentis,
connard.
Ralentis,
abruti.
Alors ça, le.
Voilà. Tu vois, il a fallu du temps, mais je l'ai vu sur AliExpress, ce truc-là, ça y est. quelqu'un l'a inventé. Alors, c'est pas mal, parce que maintenant, tu peux envoyer des smileys, tu vois, enfin, faire des trucs un peu plus light. Imagine si tout à coup, ta voiture devient, enfin, la carrosserie entière devient un terrain d'expression.
C'est le genre de truc que tu vas voir dans James Bond.
C'est ça, genre, truc la de super-héros, imagine tout à coup, la voiture devient une voiture de police.
Pas mal.
Tu tournes le coin de la rue, elle redevient une berline grise, genre.
Il y a quelqu'un dans la chatroom qui nous dit « Idéal pour échapper aux poursuites dans Need for Speed ». C'est exactement ça.
ou au radar routier, hein. Monsieur, ah bah non, c'est pas votre voiture. Hein,
oui.
Chef, une mégane jaune.
Est-ce qu'elle avait quelque chose de particulier, la voiture de Sony? Parce que celle-là, c'est vraiment Sony qui fait le logiciel et Honda qui fait la voiture elle-même. Elle était intéressante. Je ne sais pas si tu as suivi la chose ou si ça t'a...
Alors, pas sur sa dernière itération. C'est quand même un truc, c'est une histoire géniale, cette histoire. C'est quand même le produit accidentel. Hein. Tu vois, c'est il y a trois ans, Sony fait une espèce de simili proto, mais en fait, pour mettre en valeur ces technologies de divertissement à bord, la musique, le machin, etc. Et tout le monde dit, ah, ça y est, Sony fait une voiture. Non. Sumimasen. il n'y a pas de voiture. Ah bon? Ah, c'est très décevant que vous n'ayez pas de voiture. Et là, et si on faisait une voiture? Ouais, mais chef, c'est pas notre métier. Bon, attendez, on va aller voir Honda. Et voilà, ça y est. Donc, du coup, Sony va faire une voiture. Mais on attend de voir comment elle est badgée. Est-ce qu'elle sera badgée Sony ou Honda ou est-ce qu'ils font, je sais pas s'ils font pas une espèce de filiale commune. Enfin bon, mais
c'est une société commune qui est une joint venture Sony et Honda. Ouais.
Mais donc c'est rigolo.
Elle s'appelle la Vision S.
Oui, je crois. Tout à fait.
D'ailleurs, j'ai lu des gens sur Twitter qui disaient avec beaucoup de justesse, mais ça peut pas être un produit Sony, ça. Sinon, elle s'appellerait la XM272KRVV. Mais là, ouais. Vision S, c'est pas possible.
Ah oui, c'est ça. Elle s'appelle Afila. Enfin, la marque Afila. Je sais pas.
Ah oui, pardon, Vision S, c'est celle d'il y a 2 ans.
Okay. Oui, tout à fait. C'était le nom de proto. Non, le nom de la nouvelle filiale commune, Afila. Ça marche comment, Afila en japonais? Afila, ouais.
Afila, si.
Ouais, pourquoi pas. Alors attention, ne vous attendez pas à la voir arriver en concession. Et d'ailleurs, quelle concession? Bon, bref. Avant 2026, ce qui est une façon de dire, prenez votre temps. Parce qu'en plus, il peut se passer quand même plein de choses d'ici là sur le marché de la voiture et de la voiture électrique en particulier. Mais c'est une très jolie berline arrondie. Enfin, ça a un côté. C'est très japonais.
Ouais. Donc voilà pour les voitures aussi. Je sais pas, j'ai enfin réussi à trouver une image de la voiture. Je sais pas s'il y a d'autres choses spécifiquement sur les voitures. Ce qu'on a l'air de voir, c'est à quel point les voitures sont des smartphones sur roues, quoi, de plus en plus. J'écoutais là encore un podcast intéressant où les gens disaient, je me souvenais de l'époque où il fallait changer l'huile, où il fallait, tu vois, ce genre de truc. Aujourd'hui, tu te préoccupes plus de ces problèmes. Moi, quand j'étais jeune, les problèmes de voiture, c'était l'huile, c'était le carburateur, le machin, des trucs que je
c'est le Delco.
aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Tout ça, c'est un petit peu réglé par des histoires de fiabilité, etc.
Et le fait que sur l'électrique,
l'interface et l'électrique.
Ouais, sur l'électrique, changer l'huile, quelle huile, quoi. C'est
c'est ça.
Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de simplicité. C'est intéressant parce qu'à CIS, il y a toujours eu ce hall dédié à la voiture, mais qui était dédié à l'aftermarket, comme on dit, c'est-à-dire toutes les choses que tu pouvais acheter après, tu vois, en autoradio. Mmh. Donc, t'arrivais dans le hall, ça faisait parce que t'avais des subwoofers partout, ça faisait un barouf de tous les diables. Et puis, donc, il y avait ça, les GPS, quelques trucs de radio satellite embarqués, des machins pour les camions. En gros, c'était le hall où t'allais, soit t'étais spécialiste du truc et c'était ta première destination, mais c'était quand même pas le cas général. Soit t'y allais à la fin pour vraiment jeter un œil parce que sait-on jamais en disant, oh, regardez, ils sont fous, ces Américains. Et en fait, c'est un truc qui a explosé du jour où les constructeurs, d'abord les grands constructeurs, ont pris des stands et où toutes les voitures sont devenues des espèces de gros smartphones sur roues avec des questions sur le logiciel, les plateformes, le machin, enfin bon, et puis l'électrification, la voiture autonome et le reste. Donc c'est devenu, ça a fait en plus encore de CIS un salon qui est impossible à visiter entièrement. Avant c'était simple, t'y allais pour voir Sony, Panasonic, Samsung, LG, machin.
Ah, et puis à côté,
quelques accessoires. Au début, les startups débiles, c'est un truc d'anciens combattants. Enfin, d'anciens combattants, ça, je te parle de comment c'était il y a moins de 10 ans presque. Il y avait un truc avec, tu vois, des stands d'OEM chinois qui faisaient des gadgets rigolos que tu allais voir pour rigoler. Et puis parce que juste à côté, tu avais le salon du X où tu pouvais peut-être espérer rentrer avec ton badge press, enfin démerder un truc. Je n'ai jamais réussi à le faire malgré l'envie que j'avais d'aller de vendre un sujet là-dessus quand même. Mais bon, bref. Et ça, c'est devenu les startups par milliers. Et maintenant, t'as la voiture en plus. Et en plus, la surface d'exposition a augmenté. Donc, c'est, ce salon est un cauchemar. C'est amusant parce que j'ai un camarade que je connais qui est designer, qui est pas du tout dans ce monde-là, qui y est allé pour la première fois. C'est même d'ailleurs la première fois qu'il allait à Las Vegas. Et donc, lui était encore dans la fascination, mais quand même, il disait, ouais, ça fait mal aux pieds, un peu. Ouais, tu crois.
C'est toujours la même histoire sur ce genre de salon. C'est marrant d'y être, ouais. Mais c'est pas
exactement
tout beau, quoi.
Ça vérifie mon théorème habituel. Le CIS ne fait rêver que ceux qui n'y vont pas.
Qui n'y sont pas, ouais, exactement. Il y avait d'autres choses. Un des trucs qui a fait un petit peu de bruit, c'est le U-Scan, le scanner d'urine de WeThings, qui est quand même une idée qui traînait depuis un certain temps, qui est enfin un produit qui va arriver. Alors, c'est un petit appareil qu'on met dans les toilettes et qui a une cartouche qui est utilisable pour, je crois, une soixantaine d'analyses et qui va analyser. Alors, c'est pas encore tout à fait clair ce qu'ils vont analyser. Ça peut servir pour différentes choses, dont le cycle menstruel. Donc ça, ça peut être pratique quand même. Il y a je crois, est-ce que ça détecte le pH, donc le niveau de certaines vitamines, le pH, certains trucs comme ça. Le truc, c'est que ça ne peut être utilisé que pour une personne à la fois. Donc, si quelqu'un d'autre utilise les toilettes, ça va pas être très utile. Mais bon, ça fonctionne. C'est un truc qui se met à l'avant des toilettes, qui ressemble un petit peu à les trucs qui colorent l'eau là, qui servent pas à grand chose. Et qui est connecté, donc c'est WeThings, c'est un truc sérieux. Il y a plein de petites startups qui font ce genre de choses, mais là c'est sérieux, c'est approuvé par les autorités, etc. C'est des cas d'usage peut-être un petit peu spécifiques. C'est pas c'est-à-dire que c'est le genre de choses qui pourrait être très utile pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Le truc, comme on le disait pour l'utilisation de ce type de technologie déjà l'année dernière, c'est que les constructeurs semblent souvent viser le quantified self généralisé, qui du coup sert à beaucoup de gens pour comprendre certaines des données de leur corps, mais qui du coup coûtent plus cher et sont moins disponibles pour des questions de pénurie, etc., aux gens qui en auraient peut-être vraiment besoin et qui pourraient les utiliser pour des conditions médicales sérieuses.
Ouais, mais ce genre de choses. Moment-là, tu rentres dans un autre circuit, c'est-à-dire que t'as l'objet connecté de bien-être et de santé, mais alors faut faire attention parce qu'en fait, il y a une ligne jaune où à un moment, il faut que tu ailles chercher des certifications des autorités de santé, des autorisations de mise sur le marché, enfin tu vois. Mais ce qui a un autre intérêt pour les gens qui fabriquent ce genre de choses, c'est que tout à coup tu rentres tu passes de la santé au médical, et quand tu rentres dans le médical, bah tout à coup tu deviens prescriptible, remboursable, enfin c'est autre chose. Évidemment, c'est moins mass market qu'une balance connectée, et c'est pour ça que souvent ces boîtes-là, WeThings par exemple, fait très attention à dire hop, là on vous donne un objet qui vous permet de faire de l'autosurveillance, en gros, un peu comme si tu achètes un tensiomètre, tu vois, bon, c'est médical, mais bon, tu as le droit d'utiliser tout seul. Et je pense pas qu'ils aient envie de passer de l'autre côté, mais non, c'est une chouette. Alors, j'ai vu quand même quelque chose, tu disais que c'est pour une seule personne, j'avais vu un papier, moi, qui disait que le système avait des moyens de reconnaître qu'il était sur un autre utilisateur. J'ai pas encore exactement compris
alors,
comment il fait.
Si je me trompe pas, on me fait la remarque dans la chatroom aussi, si je me trompe pas, ça repère que c'est pas la personne qu'il suit, mais il va pas pouvoir détecter les choses pour différentes personnes en même temps. Bon, on verra quoi je me trompe peut-être sur ce point.
C'est un truc qui existait déjà dans une autre configuration, intégré dans, alors là, pour le coup, des modèles très haut de gamme de toilettes japonaises au Japon, auxquelles toi et moi n'avons pas accès, qui justement faisait de l'analyse d'urine, puis avec un système compliqué, parce que pour faire passer l'urine par un réservoir avant de l'envoyer dans l'eau, enfin bon, bref, un truc très japonais, quoi. Très, très puissant, très sophistiqué, très compliqué. Pour des gens qui ont, je veux dire des bêtises, tu vois, du diabète, du machin, enfin des trucs où ce qui t'évite en gros d'aller faire ta petite analyse d'urine toi-même toutes les semaines et de mettre une petite languette en disant ah non, ça va, j'ai pas trop d'albumine, de machin. Bon, c'est si tu peux automatiser ce genre de choses, un peu comme l'autosurveillance de plein de maladies, c'est une très bonne idée.
On me précise, merci Cassim dans la chatroom, il y a une technologie qui s'appelle Stream ID qui détecte avec des radars plusieurs variables comme la vitesse, la distance, la dispersion du jet d'urine, etc. pour identifier l'utilisateur. Effectivement.
Est-ce que ça permet de déverrouiller son smartphone?
Écoute, pourquoi pas, après tout. C'est peut-être plus précis qu'une empreinte digitale. Bon, il y avait plein d'autres choses aussi. Un nouveau casque de réalité virtuelle de HTC qui a fait un petit peu de bruit pour les amateurs. Des nouvelles télé avec des nouvelles technologies d'écran, genre un Neo QLED qui convertit automatiquement le SDR en HDR. Ça, c'est intéressant.
Ah, pas mal.
Du micro LED qui commence vraiment à arriver dans les télés, etc., etc. Une initiative de Stellantis qui se focalise, comme on le disait, sur le logiciel plutôt que la voiture elle-même. Bref, plein de choses au CES comme d'habitude. Je crois qu'on a couvert l'essentiel. C'était pas la meilleure édition du CES de l'année, mais il y avait quelques trucs intéressants tout de même. De l'année, de l'histoire, je veux dire.
C'était la meilleure édition de l'année, ça, je suis absolument
oui,
formé.
Oui, ça, on est d'accord. On est d'accord. Sony a aussi présenté, on me le rappelle également dans la chatroom, la manette spécialisée accessibilité. On en parlera dans le rendez-vous jeu, mais c'est un petit peu une réponse à l'équivalent qui existe chez Microsoft sur Xbox. On continue à avancer dans le domaine de l'accessibilité, et ça, c'est plutôt pas mal. On en parlera, comme je disais, dans le rendez-vous jeu. Je sais pas si ça intéresse spécifiquement les auditeurs du rendez-vous tech, mais si vous appréciez, si vous avez une personne qui est en situation de handicap qui veut jouer à des jeux vidéo, eh bien, il y aura bientôt une manette spécialisée avec plein de customisations sur PlayStation. Ça existe déjà sur Xbox, même si elle est utilisable, enfin, la version Xbox est utilisable sur d'autres plateformes, etc., etc. Mais donc, Sony s'y met aussi, poussé par Microsoft, hein, je pense. Mais c'est une approche différente, comme je disais, les détails dans le rendez-vous jeu. Alors, un truc qui a fait beaucoup de bruit ces deux semaines de break, c'est l'intelligence artificielle. Je disais dans ma sorte de mini-bilan de l'année dernière que l'histoire, le sujet qui est emblématique de l'année, c'était le rachat de Twitter par Elon Musk. Je continue à penser que c'est le plus emblématique, mais l'évolution qui aura le plus d'impact pour les années à venir, je crois que c'est clairement l'intelligence artificielle et ses évolutions-là. Dans Stratechery, c'est Ben Thompson, je crois, il a écrit un sujet où il parle de « the AI epoch ». Donc, c'est pas l'époque au sens français, mais c'est l'ère de l'intelligence artificielle qui commence. Et je trouve que c'est assez juste, on a vu tellement de choses avec la génération, l'IA générative pour l'image, pour le texte avec ChatGPT dont on n'arrête pas d'entendre parler, et on va le voir pour d'autres choses aussi. Alors, je vais vous résumer un petit peu ce qui se passe, mais c'est l'ébullition totale. Il y a vraiment un truc qui s'est déclenché. D'abord, comme on s'en doutait, l'arrivée de ChatGPT a provoqué un mouvement de panique chez Google, qui a déclaré que c'était code red, alerte rouge, et qui a réorganisé ses départements pour répondre à l'arrivée de ChatGPT. Microsoft, semble-t-il, est en train d'investir 10 milliards de dollars dans OpenAI. Ils avaient déjà investi 1 milliard. Alors, avec les 10 milliards, si ça se fait, ça donnerait une valeur boursière à OpenAI évaluée à 20, enfin, une valeur de la société à 29 milliards de dollars. Microsoft aurait 49% de la société, les autres investisseurs 49%, et 2% resteraient aux mains de la société mère, qui est une société à but non lucratif. Bon, voilà. Et à côté de ça, Microsoft prendrait 75% des revenus, enfin des profits de la boîte, jusqu'à ce qu'ils aient remboursé leur investissement. Il faut savoir que OpenAI utilise le cloud Microsoft Azure de toute façon. Donc tu vois, ça va se rembourser vite, c'est 10 milliards si ça se fait. À côté de ça, Microsoft est en train d'incorporer des versions de chat, enfin de GPT dans Word, PowerPoint, Outlook et d'autres apps. Ils ont aussi comme projet, semble-t-il, tout ça c'est des rumeurs, hein, comme projet semble-t-il de créer une version de Bing, donc leur moteur de recherche, avec ChatGPT, c'est ce dont on parlait, bah hein, un moteur de recherche avec ChatGPT.
Évidemment, c'est même le truc stratégique, enfin c'est le centre du truc. C'est-à-dire depuis longtemps, on se moque gentiment de Bing, parce que faut rappeler, hein, Bing, je crois qu'ils ont fait 11 milliards l'année dernière, c'est deux fois Twitter, hein. Bon, donc on va arrêter de se moquer. Mais évidemment, c'est tout petit, enfin c'est bébé, c'est 10% des revenus du moteur de recherche, enfin de la pub chez Google. Et tout à coup, ça depuis longtemps, tu vois, moi on me dit ouais, mais tu vois, qu'est-ce que il y aura pas un après Google. Moi je dis il y aura un après tout, hein. Il y aura un après Apple, un après Google, un après Uber. C'est juste que ça devient plus compliqué au fur et à mesure que les géants sont de plus en plus grands. Mais à chaque fois, il y aura une vague technologique exactement comme Google a mis un coup de massue sur, à l'époque, Yahoo et AltaVista. Et ben voilà, il est là. Il est là, pas tellement en termes d'avancée de la technologie, parce que ce que fait OpenAI est super, mais il y a déjà d'autres choses comparables. Et on sait en plus que Google a, même pas dans ses cartons, a en interne des choses comparables, mais se pose la question de comment les utiliser. Et ça, pour plein de raisons. D'abord, ça c'est mon opinion, pour des raisons de modèle économique, parce que aujourd'hui tu vas faire une recherche sur Google. En gros, tu vas lui poser une question. Est-ce qu'il te répond ? Non. Enfin, il te répond. Il te répond avec des liens et certains sponsors, dont d'autres pas. Mais en gros, c'est tu démarres ton propre petit projet de recherche. Tu vois, là en ce moment, je veux acheter un four. Et quel four dois-je acheter ? Il y a plein de trucs. Alors, il y a des trucs sponsors, des machins, etc. ChatGPT. Parmi les questions que j'ai vu passer, bah, il te donne en tout cas une réponse, alors qu'est ouais. une réponse compilée à partir de, en gros, tout l'internet, qui est une sorte de consensus, tu vois, grappillé d'un peu partout. Par exemple, tu lui dis quel type de chaussures un homme de 40 ans devrait-il avoir dans sa garde-robe, et là il te sort les 4 paires de chaussures avec lesquelles, bah voilà, tu pourras aller faire du jogging, à un mariage, au travail, machin, etc. Et alors, il te donne une réponse, et c'est plus difficile à sponsoriser une réponse.
Ah bah bien sûr.
C'est pas il y a le lien sponsorisé comme une des pistes de ta réponse. Alors tu peux, mais c'est un peu décevant, parce que si la vraie réponse contredit le lien sponsor, en termes de pub, c'est pas dingue. Et donc je pense que tout ça pose un vrai problème existentiel, là pour le coup, au modèle économique des liens sponsorisés. Et puis j'ai envie de dire, il y a pas que ça, c'est-à-dire que aujourd'hui on regarde ChatGPT et on dit putain, c'est génial. C'est vrai, c'est génial. Attends, il fait des trucs. Enfin, voilà. Hier, je voulais regarder une vidéo sur un truc qui n'intéresse que moi, un truc sur l'Airbus A350 et pourquoi Airbus a des problèmes commerciaux avec. Enfin, c'est une espèce de marotte. Et je vois, il y a un mec qui est vraiment expert sur YouTube qui parlait de ça. La vidéo fait 54 minutes. Je suis au milieu de ma journée de travail. Je dis non, j'ai pas 54 minutes à cramer. Pourtant, j'ai très envie de savoir ce qui se passe dedans. Donc, j'ai pris le lien YouTube. Je suis allé sur youtubetranscript.com qui m'a sorti le transcript. Je l'ai collé dans le chat GPT, j'ai dit résume-moi ça s'il te plaît. Il me l'a fait en 3 paragraphes, j'ai tout compris. Remarquable. Il m'a même résumé la petite page sponsor de la vidéo en question. Donc si tu veux,
non mais c'est organisé. Ça qui est... C'est ça qui est complètement fou avec cette époque, cette révolution, cette ère de l'intelligence artificielle, c'est que le résultat est tellement, enfin. Ça fait partie de ces technologies pour lesquelles on est à la limite pendant des années et des années et des années. C'est des trucs genre, enfin, je sais pas, la fusion nucléaire ou tu vois tous ces trucs où la batterie, les évolutions de la batterie ou tu vois les batteries sèches ou ce genre de trucs. Uh-huh. Et tous ces trucs, on a tellement l'habitude de nous dire ah bah c'est dans 5 ans, c'est dans 2 ans,
c'est pour demain.
Et voilà. Et on a tellement l'habitude que ça soit pas pour demain, qu'on se dit, bon, en fait, non, ça n'arrive jamais. Sauf que là, avec l'intelligence artificielle, bah, y a eu ce point de bascule en 2022, et tout à coup, pour les visuels, pour le texte, ça fonctionne. Et d'ailleurs, bah, on va peut-être montrer cet autre projet, enfin, montrer, vous faire écouter cet autre projet de Microsoft qui est Val-E, qui est un projet qui, en fait, prend
un échantillon
de 3 secondes d'une voix et réussit à le synthétiser en une voix synthétique à partir de seulement 3 secondes. Alors, ils ne l'ont pas mis à disposition de tout le monde parce que ça peut poser plein de problèmes éthiques. Mais ils ont une démonstration que je vais... Alors, est-ce que tu veux, toi, essayer de
le jouer? Oui, je peux le faire. Alors, c'est très court, ces 3 secondes. Hein.
Alors, voilà, l'échantillon original de 3 secondes, puis l'équivalent synthétisé. Sur la première, ça ne va pas vous impressionner, mais il y en a 3 de ces exemples. On va les jouer tous les uns après les autres et vous allez voir ce que ça donne.
Alors, à chaque fois, je vous joue l'original et la copie. L'original.
My love making may be suspended, but...
Et maintenant, la copie.
The others resented postponement, but it was just his scruples that charmed me.
Donc, la copie a dit un texte prédéfini avec la voix qui a été analysée par l'extrait de départ. Et maintenant, on va répéter le processus avec des voix différentes. Donc, l'exemple 2.
Yep.
Well satisfied with my cabin, which was located in the...
OK, la copie.
Juste 3 secondes. Hein.
The others resented postponement, but it was just his scruples that charmed me.
C'est impressionnant parce qu'il y a l'accent, les intonations, il y a... Mais surtout d'avoir fait ça à partir de seulement 3 secondes. Troisième.
Ouais.
Dynamo and lamp. Edison realized...
OK, et maintenant Vali.
The others resented postponement, but it was just his scruples that charmed me.
Celui-là est bouleversant. Celui-là est dingue.
Parce que il y a un timbre émotionnel en plus dans le truc. Est-ce que tu pourrais jouer les 3 productions synthétiques l'une à la suite de l'autre pour qu'on entende bien les différences sur le même texte qui est lu en fonction de la voix synthétisée des 3 personnes différentes?
OK, boss.
The others resented postponement, but it was just his scruples that charmed me. The others resented postponement, but it was just his scruples that charmed me.
The others resented postponement, but it was just his scruples that charmed me.
Donc j'ai quand même l'impression que les intonations sont programmées dans le texte.
Alors les intonations peut-être, sur les mots. Mais le timbre, tu vois, c'est incroyable parce que et vraiment ces 3 secondes de texte complètement au hasard, vous voyez que dans banalité les extraits totale, qu'on a lus, c'est au milieu d'une phrase, enfin il y a quelqu'un, une phrase qui s'arrête puis qui reprend, et juste à partir de ça, c'est un résultat qui est vraiment convaincant. Alors clairement, l'échantillonnage n'est pas hyper élevé. Ça se trouve, ils ne réussissent pas encore à faire un son suffisamment clair, etc. Ils n'ont pas, on me demande dans la chatroom, l'URL à laquelle on peut avoir accès à l'outil. Ce n'est pas accessible.
C'est sur GitHub.
J'avais même pas vu que c'était disponible sur GitHub. D'accord.
Tu vas sur valide.va2le-demo.github.io.
Et ben voilà.
Et alors, ce n'est que la démo, hein. Je pense pas que tout le...
C'est ça.
Il y a le papier de recherche. Il y a beaucoup plus d'exemples.
C'est ça, mais je veux dire, on peut pas nous-mêmes utiliser l'outil à partir de notre voix pour créer une voix synthétique. Ça, c'est pas accessible comme c'est le cas pour... C'est ce que je voulais dire, parce que Microsoft est assez prudent. Ils sont en train de dire...
Les sources sont pas encore en ligne. C'est intéressant parce que c'est pas les premiers à faire ça. Moi, j'ai le souvenir dans une conférence Adobe... Il y a 6 ans, 7 ans, ils avaient montré le prototype d'un outil. Alors là, pour le coup, un peu plus près du produit, c'est-à-dire un truc vraiment utilisable. Mais alors, en revanche, qui lui voulait énormément de samples, si tu veux, pour travailler. C'était extrêmement efficace pour faire, je sais pas, la voix d'un homme politique, par exemple, parce que des discours, tu vois, tu prends les voix du président, un discours à une tribune, etc. Et là, t'as tout. Là, c'est le coup des 3 secondes qui me met la tête à l'envers parce que arriver à comprendre, arriver même à imiter quelqu'un, à imiter la voix, les intonations de quelqu'un juste en entendant 3 secondes, c'est terriblement compliqué. Ouais. Donc, joli coup, Baron.
Complètement. Et bon, évidemment, alors c'est un texte qui est que de 5 secondes et sur un truc de 3 secondes, mais l'idée, c'est de montrer qu'à partir de presque rien, on peut créer quelque chose de convaincant. Et donc, c'est un exemple en plus de cette maturité de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres exemples. Hein. Là encore, je vous disais, il y avait plein de choses et plein de domaines d'application. Il y avait un article intéressant sur Numérama qui détaillait l'expérience d'une personne qui avait, à partir de son journal intime, c'est une femme qui s'appelle Michelle Huang, qui avait rédigé son journal intime pendant des années, qui aujourd'hui a 25-30 ans, et a nourri l'intelligence artificielle de son journal intime, et a donc créé un chatbot d'elle jeune. Et elle s'est mise, d'elle, donc enfant, et elle s'est mise à discuter avec elle enfant, et l'intelligence artificielle lui répondait comme l'aurait fait elle jeune, selon ce qu'elle avait dans son journal intime. Tu vois, c'est des utilisations complètement folles. Il y a des utilisations en médecine, par exemple. C'est pas tout à fait nouveau, mais ça revient au goût du jour. Et il y a des diagnostics qui sont établis par des chatbots entraînés sur un corpus de diagnostics, machin. Mmh. Et on se rend compte que très froidement, les résultats des diagnostics sont à peu près aussi bons que ceux donnés par des humains. Alors, il n'y a pas la nuance, il n'y a pas le... Mais c'est des outils qui fonctionnent. Il y a aussi le côté obscur du truc, évidemment. Des criminels, des cybercriminels ont commencé à utiliser spécifiquement ChatGPT pour créer non seulement des outils de hacking, genre du code, quoi, des programmes. Ils demandent à ChatGPT d'écrire un code qui fait tel et tel truc. Et ben, l'outil le sort, le code, mais aussi, par exemple, pour créer des conversations convaincantes pour des arnaques sur des sites de rencontres, par exemple. Tu vois, tu sais pas très bien comment, voilà. Il y a aussi des études sur le résultat de certains, de GitHub Copilot et d'autres outils d'intelligence artificielle qui montrent par exemple que le code que sort ces outils est moins sécurisé que le code qui est écrit par des humains, par exemple. La communauté la conférence internationale sur le machine learning a interdit des écrits entièrement écrits par IA, mais à autoriser des outils, des écrits qui seraient édités qui seraient édités et peaufinés par un auteur à partir d'un truc par IA. Il y a aussi un étudiant qui a créé un outil pour repérer les devoirs et les mémoires écrits par une IA. Donc, tu donnes le texte et l'outil va te dire à partir d'outils existants si le truc a été écrit par une IA ou pas.
Je sais pas exactement comment il peut faire ce genre de choses.
Alors, je peux t'envoyer les liens. Il utilise des outils existants qui repèrent les patterns, les trucs. Enfin, je peux t'envoyer le lien du détail.
Okay. Non, c'est intéressant parce que, de fait, quand tu...
Mais ça va être le chat et la souris, tu vois.
Quand tu lui fais refaire un peu le même exercice de manière répétée, tu comprends qu'en fait, il a une structure en tête sur à quoi ça doit ressembler. Je me suis amusé à essayer de lui faire écrire un communiqué de presse sur une info imaginaire, mais sur une société bien réelle, etc., en disant voilà, qui, quoi, où, comment, tu vois. Je lui donne juste, tu peux lui donner en introduction des infos, des datas. Et tu dis voilà, maintenant, écris-moi le communiqué de presse. Et il l'a fait. Et il l'a fait de manière géniale. C'est-à-dire qu'il a fait ce que tu vois dans tout communiqué de presse. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as une citation du patron, tu vois. Nous sommes vraiment ravis de dévoiler la version 3.2 de machin, a dit machin, président, directeur bien général, sûr, ouais. le truc. Ouais. Grâce à nos clients, et le truc, et ChatGPT m'a inventé des citations. Mais qui étaient parfaitement dans le contexte, dans le ton, dans le truc. Enfin, c'est-à-dire que là, tu vois, un dircom qui sera allé voir ce patron en disant, tiens, patron, on vous a mis ça pour la citasse, là, dans le communiqué. Il aurait dit, c'est bon, ça part. C'est-à-dire que tous les métiers qui consistent à faire soit des choses répétitives, soit des choses qui sont la synthèse de choses que l'on sait par ailleurs, t'imagines, là, tu te faire faire les cliff notes, les notes de lecture de n'importe quel roman. Tu vois, raconte-moi Les Misérables en trois paragraphes. Oui, alors voilà, Jean Valjean.
Mais tu sais, c'est marrant parce qu'on a on a tendance à avoir une approche assez craintive de ce genre de choses et on se dit, ah mon Dieu, mais ça y est, on va plus avoir de... Et évidemment, quand je vois la voix synthétisée avec 3 secondes d'extrait, moi je me dis, résume-moi l'actualité tech. Bon, on peut pas encore faire l'actu, mais ça devrait arriver. Avec, dans le ton et le style du rendez-vous tech de Patrick Béja, tu vois, je me dis, mais combien de temps est-ce que je vais avoir un métier? Mais je montrais ChatGPT à ma femme, elle me dit « Mais putain, c'est génial ce truc. » Tu sais, dans la recherche ou dans les, dans les papiers académiques, tu passes genre 50% de ton temps à écrire, par exemple, le résumé des bases de ce sur quoi tu bases ta recherche. C'est pas le, le truc qui est intéressant, c'est le, l'introduction, quoi. Et généralement,
le,
c'est
le,
des
le
assistants
présupposé, ouais.
ça, le, voilà. Et tu, tu fais produire ça par une IA, et après, évidemment, tu repasses dessus. Mais du coup, ça veut dire, c'était un des exemples auxquels elle a pensé, tu, tu, au lieu de passer 10 heures à faire ça, bah, tu vas y passer 3 heures, et les 7 heures qui restent, tu vas les passer à faire les trucs vraiment intéressants, vraiment qui font avancer. Donc, et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas assez, je crois, voir les avantages que ça va apporter, et évidemment que ça transforme une société, ce genre de shift technologique,
ah oui,
et l'AI époque, l'ère de l'IA, évidemment que ça transforme une société, mais ça peut aussi amener, enfin il faut s'y préparer, mais ça peut aussi amener une comme l'a fait énormément de la technologie depuis la révolution industrielle, ça peut amener un écrémage de ce qui est pénible et, et pas créatif et pas productif, et puis un focus sur ce qui est vraiment intéressant, ce qui fait avancer le Schmilblick. Enfin, clairement, là, ça devient utile. Ça, et évidemment, il y a plein de problèmes comme l'utilisation frauduleuse, le plagiat.
Dans les lycées, là, ils vont s'éclater, mais c'est un truc... Tu vois, que doit-on retenir de l'œuvre de Kierkegaard ? Voilà, pfft, merci, ça c'est fait, allez, on sort. Moi, ça fait un mois et demi que je m'amuse beaucoup avec Midjourney, qui est un de ces moteurs d'IA générative, mais pour faire des images. C'est bouleversant. C'est-à-dire que autant, tu vois, tu comprends presque instinctivement comment ChatGPT arrive à faire ce qu'il fait au bout d'un moment, autant là, c'est-à-dire que la compréhension de ce qu'il a, enfin, je lui ai fait faire des choses, moi, qui m'ont même troublé. C'est-à-dire, j'ai utilisé la photo d'une de mes filles et je lui ai demandé d'imaginer à quoi elle ressemblera quand elle aura 12 ans. Oh, j'étais presque en larmes, quoi. Et tu peux regarder dans le petit Discord où on est que tous les deux, je t'ai transformé en Pixar vilaine.
Ah oui?
Oui, bah regarde.
Mais attends, mais c'est où? Oh là 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 là!
Voilà.
Mon Dieu! Mais attends, alors il faut que je montre ça. Malheureusement, peut-être qu'on l'utilisera comme illustration.
Si tu me dis lequel des quatre tu préfères, je t'en fais une sortie haute def.
Tu sais quoi? C'est marrant parce qu'il y a un petit air de mon frère. Mon frère a le visage un petit peu moins allongé que moi. Mm-hmm. Et c'est presque un mélange entre moi et mon frère. C'est hyper bizarre.
Alors c'est amusant parce que tu peux pas lui filer une photo et lui demander le premier est pas mal. Tu peux pas lui mettre une photo et lui demander de te faire le truc à l'identique parce qu'en fait il veut surtout éviter de devenir un gros moteur à fake parce que là ce serait quand même déjà qu'évidemment ils mettent des limites à ce que tu peux faire en termes de sujet, d'image, d'action, de voilà. Là c'est ils veulent aussi éviter les fakes parfaits parce que sinon ils sauraient parfaitement le faire. Et là aussi, c'est-à-dire que tout à coup, qu'est-ce que tu fais avec un moteur comme ça, s'il est à toi et qu'il est vraiment débloqué?
C'est en train d'arriver, quoi.
Couplé au truc de la voix. Non, la vraie next step, c'est la vidéo.
Alors justement, bon, si tu peux me sortir une image, une version haute résolution du premier, on l'utilisera comme
grand
illustration du podcast. Donc vous pourrez aller voir ça sur le site, sur frenchspin.fr. Mais tu dis les vraies évolutions, ça serait qu'est-ce que tu disais, l'image, la vidéo, la 3D,
de générer de la vidéo.
Alors qui est-ce qui est derrière ça? Je sais plus, mais ça s'appelle Point E, qui génère des nuages de points qui sont en fait adaptés en objet 3D. C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut créer une image 2D, et ben là on peut lui demander d'imaginer des objets en 3D carrément. On voit qu'il y a du travail du côté de la vidéo. Alors les objets en 3D, ils sont très rudimentaires. Hein. C'est fait par deux nuages de points et c'est ça. On est au début de ça, mais c'est le genre de truc qui dans un an ou deux ans pourra te créer un modèle 3D convaincant facilement quoi. Donc et on peut en plus convertir ces modèles de points, enfin ces nuages de points en vraie mèche 3D qui fonctionne et le résultat est plutôt convaincant. Donc tu vois, c'est vraiment l'ère de l'IA, on est en train d'y entrer et ça va vraiment, là pour le coup c'est une transformation qui est massive de la société, mm-hmm. autant que, je sais pas, le smartphone, Internet, les ah usages oui. sont infinis, infinis. Et on a passé une heure et demie à parler, pas une heure et demie, mais peut-être 45 minutes à parler de ChatGPT au moment où il est sorti. On a parlé ouais. dans quasiment tous les épisodes de la deuxième moitié de l'année dernière de Midjourney, Dali et tous ces trucs-là. Ouais. Et on n'a pas fini. C'est ah vraiment non. l'importance de ces évolutions ne peut pas être overstated.
Parce que pour passer un peu de temps dessus, je vois maintenant les usages professionnels qui en sont faits. C'est-à-dire que il y a je ne sais combien d'agents de design.
Pardon, c'est excuse-moi, c'est Pointy de OpenAI. C'est encore OpenAI qui fait ces nuages de 3D. C'est encore OpenAI. Donc
ils vont vite valoir.
Je comprends l'investissement, mais tu sais. Microsoft mais qui met 10 milliards, ce genre de truc, tu vois ça, tu dis, mais attends, vous voulez combien là ? 10, 20, 30, 50, 100 milliards, on va faire un petit emprunt, ça va bien se passer.
Oui et non, parce qu'ils ont des moyens infinis, donc ils auraient pu considérer de manière un peu conservatrice que c'était à leur labo de développer la même chose chez eux, parce qu'en fait, il y a quand même, tout ça descend à peu près des mêmes technologies, donc ils ont quand même, j'imagine même que ça a dû grincer un tout petit peu chez eux, genre, bah non, chef, vous êtes gentil, on aurait pu le faire en interne, mais pour des raisons d'efficacité, d'expédience, etc., ils ont choisi de faire comme ça.
Il y a des fois, c'est plus facile de racheter ce qui marche déjà ailleurs que de le redévelopper chez toi. Hein.
Tout à fait.
Mais puis c'est une question de temps maintenant. C'est une question de temps parce que là, c'est dans les mois à venir, ça va commencer à s'intégrer à des outils existants et c'est le first mover advantage. Ceux qui seront là, c'est ce qui s'est passé avec Google. Tu vois, Google, ils avaient une technologie innovante, mais c'est surtout qu'ils étaient là avant les autres. Et une fois que tu as commencé à utiliser Google, c'est difficile de passer ailleurs. Pareil avec Facebook, pareil avec Instagram, pareil. Donc, il vaut parfois mieux racheter ceux qui savent faire pour être présent très vite et l'intégrer à Word, Office, PowerPoint, etc., plutôt que de le développer, d'arriver dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et pendant ce temps, tu as tel outil web où ça a été intégré à, je sais pas, les Sigma et les Canva et tous ces trucs comme ça, ou Google Docs ou ce genre de trucs. Et du coup, les gens ont déjà l'habitude de l'utiliser et toi, on pense plus à toi, quoi.
Ah, c'est amusant. Je t'ai envoyé la version au dev de la photo. On a l'impression qu'en fait, il t'a mis une espèce de... Enfin, c'est assez... Tu verras, c'est assez curieux.
Écoute, j'ai pas l'air gentil. Hein.
Vilain. Mais non, you're a villain. Ça... C'est toi le méchant du film.
Ça me ressemble de loin, on va dire, hein, quand même.
Oui.
Mais bon, écoute, avec en plus les dents moches et tout, c'est
pas... Ouais, c'est super.
Bon, donc voilà surtout pour l'intelligence artificielle. C'est sans fin, ce genre de truc. Entre parenthèses, les sociétés chinoises sont en train de se... Enfin, les sociétés chinoises, et j'imagine le gouvernement chinois, sont en train de se... C'est code red chez eux aussi, tu vois. C'est alerte rouge, DEFCON 1, chez eux aussi, j'imagine. Bon, écoutez, pour continuer à nous entendre parler de tous ces sujets, vous savez ce que vous pouvez faire. Soit continuer à écouter le Rendez-vous Tech, soit... devenir patriote du Rendez-vous Tech. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, peut-être une bonne résolution, si vous le pouvez. Hein. Je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc, si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. On est toujours là. Mais si vous le pouvez, si vous souhaitez contribuer au soutien et à la production de ces émissions qui sont encore faites par des humains de chair et d'os, même si on utilise des robots, des ordinateurs, tout ça, hein, mine de rien, on a des machines qui nous rendent les choses possibles, alors qu'avant, ça aurait été totalement impossible il n'y a pas si longtemps. Imaginez faire ça sans le réseau Internet, mais il aurait fallu des studios de production, des machines à plusieurs centaines de milliers d'euros, des droits de diffusion sur les ondes, etc. Bref, on utilise la technologie pour rendre ça possible, mais c'est possible. Et vous pouvez nous soutenir à la hauteur que vous souhaitez. Patreon.com/rdvtech pour soutenir les créateurs de cette émission. C'est évidemment extrêmement apprécié. Et justement, dans l'after show cette semaine, on va avoir Kassim qui nous rejoint pour parler de sujets sur l'IA, de questions qu'on n'a pas évoquées sur le travail et le rôle de l'humain et tout ça, qu'on n'a pas évoqué dans l'émission. Donc ça sera un petit bonus spécial dans l'after show, ainsi que à la fin de l'after show, restez jusqu'au bout si vous êtes patriote, parce que on a des décisions de Shopify pour les meetings récurrents qui, moi, me paraissent extrêmement justifiées. Sauf que, est-ce que le podcast est un meeting récurrent. Bon, tout ça, c'est dans l'after show pour les patriotes. Si vous êtes patriote, vous avez droit au contenu bonus comme l'after show. Et du coup,
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Coup, jingle du reste de l'actu. Merci. Alors, on va pas du tout parler du 6 janvier brésilien, du fait que TikTok, Instagram y ont contribué, le fait que Elon Musk avait renvoyé tout le staff de vérification du contenu au Brésil. Genre, il y avait 8 personnes qui modéraient le contenu, tout ça. On va pas parler de ça. On va pas parler du fait que le Speaker of the House, Kevin McCarthy, a, pour être élu, concédé une énorme partie de son pouvoir à la droite de la droite américaine, qui veut du coup, c'est lié à la tech, hein, je vous dis pas juste ça pour ça, qui veut du coup lancer des enquêtes, des grandes enquêtes sur le big tech et les Twitter files et que fait le monde de la technologie pour affreusement censurer la droite américaine de manière complètement injuste.
Bon, parce que c'est sûr, on ne les entend pas.
Ah mais complètement, moi je ne sais pas. Mais tu sais quoi, en même temps, il y a une étude de l'Université de New York, et c'est hyper intéressant de voir ça, qui semble conclure que les fermes de trolls russes dans l'affaire de l'élection de Donald Trump, leur action en 2016 avec l'élection américaine, n'aurait impacté qu'une très 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 faible partie des utilisateurs sur Twitter, par exemple, 70% de l'exposition aux trolls russes s'est concentré sur 1% des utilisateurs. Donc tu vois, c'est pas que c'était diffusé partout, c'était vraiment... Bref, ça semble contredire un petit peu cette idée répandue à laquelle je souscris plus ou moins, enfin en attente d'études plus sérieuses que j'appelle de mes voeux, que ce genre de travail influence l'opinion politique des masses et du peuple. Bah, cette étude semble dire un petit peu le contraire. Mais bon, bref, oui, on va pas parler de ça.
Tu peux influencer des gens qui, à leur tour, en influencent d'autres, si tu vas influencer des influenceurs.
Évidemment, évidemment. On va pas parler de tout ça, parce que c'était un épisode sans ce genre de sujet. D'ailleurs, vous remarquerez que... Je vais juste mentionner que les liens sur ce qui se passe avec Twitter, j'en ai genre 35. Vous pouvez le voir sur le live, là. J'en ai des tonnes. Et ben, on va pas en parler. Juste parce que, voilà, on va pas parler de ça. Par contre, ce dont on va parler, c'est LastPass. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé avec LastPass?
Ah oui, c'est assez moche. Enfin, c'est moche, alors, surtout venant d'une société à qui tu fournis des données, là, pour le coup, si, tu vois, à qui tu ouvres le sein des seins et tout ça. Donc,
exactement.
C'est quand même des choses qui doivent être fondées sur la confiance absolue de ce qui va être fait, ou même du fait qu'on te dit les choses quand il y a un problème. Là, ils ont un peu...
Ils ont un peu merdé, voire voilà. Beaucoup merdé. LastPass, c'est un gestionnaire de mots de passe que moi, j'utilise et que j'ai recommandé dans cette émission, d'ailleurs, qui était a priori assez fiable, sauf qu'il y a eu cet été une faille quelque part dans leur système et ils ont été très lents à donner des informations sur ce qui s'était passé pendant cette faille et on découvre la veille de Noël, vraiment le pire moment, enfin le moment que tu choisis pour que le sujet soit aussi peu traité que possible.
Ça m'étonne.
On a découvert qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que les hackers avaient réussi à choper l'ensemble, enfin une immense partie des coffres-forts, des données chiffrées de leurs utilisateurs. Mais genre de l'ensemble de leurs utilisateurs. C'est-à-dire que ce que vous faites avec un gestionnaire de mots de passe, c'est que vous mettez tous vos mots de passe dans un gros fichier qui est chiffré avec votre mot de passe maître. Donc si on ne connaît pas votre mot de passe maître, bah, a priori on peut difficilement accéder à ces données, enfin on ne peut pas y accéder. Et de cette manière, bah, vous n'avez pas à gérer chacun de vos mots de passe individuellement. Sauf que si quelqu'un, la protection de ces fichiers, de ces coffres-forts où sont tenus tous vos mots de passe est essentielle. Enfin, c'est le service que tu fournis. Et ben là, LastPass a avoué il y a 2 semaines que les acteurs maléfiques, criminels, avaient obtenu tous les coffres-forts, enfin les coffres-forts de leurs utilisateurs, je crois que c'est tous. Mmh. Et du coup, alors, il y a deux problèmes. Le chiffrement pour certains de leurs coffres-forts instaurés il y a longtemps n'était pas assez fort, et donc ces coffres-forts-là devraient pouvoir être ouverts relativement facilement en brute-forçant le truc. Et d'autre part, même avec les coffres-forts plus récents qui sont mieux chiffrés, eh ben, si votre mot de passe maître était pas assez fort, eh bien, les hackers devraient pouvoir ouvrir vos coffres-forts aussi. Et du coup, toutes vos données qui sont dans ces coffres-forts seront visibles. Donc, tous les mots de passe de tous vos trucs. C'est la pire des choses qui puissent arriver à une société comme ça. Une société comme ça devrait justement être hyper ouverte sur ce genre de choses et dire « On a merdé, voilà ce qu'on va faire pour corriger, changez vos mots de passe ici et là. » Enfin, mais ils ont été hyper discrets sur la chose. Et puis surtout, c'est le truc... Enfin, il n'y a rien de pire qui puisse arriver... Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas votre mot de passe maître. Donc, la pire chose qui puisse arriver à une boîte comme ça, c'est de perdre les coffres-forts chiffrés. Et bien, ça leur est arrivé. Donc, j'espère que si vous utilisez Aspace, au moins pour les outils importants, les services importants, vous avez une authentification double facteur qui fait que vous serez protégé même si quelqu'un découvre vos mots de passe pour ces services. Mais dans l'ensemble, bon, ben, on n'a pas de double facteur sur tout, quoi. Donc, si vous utilisez Aspace, la chose à faire... Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Changez votre mot de passe maître maintenant, ça ne change rien. Ils ont déjà le coffre-fort chiffré avec le mot de passe d'avant. Donc, changez votre mot de passe maintenant. Oui, il faut mieux le faire parce que s'ils découvrent votre mot de passe, ils pourront, et que vous ne l'avez pas changé, pourront peut-être accéder à votre compte. Mais surtout, il faut changer les mots de passe des services essentiels et puis mettre l'authentification double facteur, ça on le sait depuis longtemps. Mais surtout pour l'espace, c'est la catastrophe, quoi.
Ça va très très mal se passer.
Donc, vous pouvez migrer sur un autre service. Je ne sais pas si c'est vraiment...
OnePassword, Dashlane...
Bitwarden, il y en a plein.
Voilà.
Mais c'est super pénible, tu vois, de passer sur un autre service.
T'imagines l'insécurité dans laquelle ça te met. Genre, comment ça, vous avez perdu tous mes mots de passe. Je sais, je vais en avoir 800 dans mon password manager à moi, dont du coup, j'ose même plus te donner le nom, mais qui n'est pas l'espace.
Non, mais c'est... Oui, clairement, c'est... Donc, je le mentionne. Le pire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais je le mentionne parce que c'est important, c'est une grosse... Et puis, moi, je vantais les mérites de l'espace il y a quelques années, quoi. Donc, clairement, ils ont... Bref. Le truc à savoir, mettez de l'authentification double facteur aussi. Il faut plusieurs... c'est comme... comment on appelle ça pour le Covid avec plusieurs couches, la défense de l'oignon, comment on dit ça? Je ne sais plus.
je ne vois pas le rapport avec le
Tu COVID. Sais, avoir plusieurs couches de défense. Genre, il faut social distancing, et puis se laver les mains, et puis mettre des masques, et puis tu vois, pour qu'à chaque fois, ça attrape...
Les mesures barrières.
Voilà, mes barrières en plusieurs couches. Donc là, il faut peut-être gestionnaire de mots de passe. Oui, le truc à savoir, le truc à retenir tout de même, c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser un gestionnaire de mots de passe, parce que tant qu'on utilise des mots de passe, peut-être que ça va changer bientôt, mais tant qu'on utilise des mots de passe, il vaut mieux quand même avoir un gestionnaire de mots de passe avec des mots de passe complexes qu'on ne connaît pas nous-mêmes et qui sont des trucs de 32 caractères, etc., plutôt que d'avoir le même mot de passe partout écrit sur un post-it, etc. Donc ça, il faut quand même utiliser un gestionnaire de mots de passe, mais utiliser aussi authentification multifacteur, etc. C'est l'emmental, c'est ça, de l'emmental, le gruyère, le machin, tu sais, ça, tu mets plusieurs tranches d'emmental et ça passe par certains trous, mais c'est arrêté par la couche d'emmental.
C'est un truc finlandais ou non ?
Non, non, c'était en France, on en parlait. Enfin, il y avait une image, je crois. Bon, bref. Les puces, ça y est, c'est fini, tout va bien. On a des puces partout. Il y a même maintenant, c'est l'inverse de ces deux dernières années, l'inventaire visiblement s'agrandit et s'agrandit. Les stocks, je veux dire l'inventaire, les stocks commencent à être trop importants. Plus personne n'achète de puces et on continue à en fabriquer. Donc, c'est le contraire de la pénurie. Il y en a trop.
Passe de la famine à la boulimie. Ça, c'est,
exactement. Ouais. Sur les puces, en gros, ce qu'il faut retenir, il y a plein de news sur ces sujets aussi. TSMC continue à investir, continue à fabriquer des puces de plus en plus petites. On arrive aux 3 nanomètres maintenant. Mais ils construisent aussi des usines, notamment en Europe, en Allemagne, qui la construction pourrait commencer en 2024. Donc, c'est pas mal pour amener les savoirs de ce genre de choses et avoir un petit peu plus d'indépendance. 35 sociétés ont promis 200 milliards de dollars pour construire aux États-Unis depuis 2020. Donc, les États-Unis ont vraiment l'intention de devenir une force qui compte dans la fabrication de puces, et on le comprend. Des sociétés comme Dell, par exemple, arrêtent de se fournir en Chine. Et leur intention, c'est que d'ici 2024, ils n'auront ils n'utiliseront plus de puces fabriquées en Chine. Tu te rends compte ?
Ça,
d'ici 2024, c'est dans deux ans.
Ça paraît très compliqué. Rapide. Alors, quand ils disent plus en Chine, ça comprend Taïwan ?
Tu as le droit la question est importante.
Tu as le droit de réfléchir avant de répondre. Ça, 2024, ça me paraît très rapide parce que tu veux le temps de trouver les terrains, de construire une fab, de tout ça, etc. Enfin, mais en même temps, c'est un côté encourageant parce que j'avais une boutade, j'allais dire, pendant ce temps-là, 35 chefs d'entreprise ont demandé à Emmanuel Macron comment sauvegarder notre compétitivité et notre souveraineté économique sur le marché des semi-conducteurs. Alors qu'en fait, voilà, à un moment, il faut juste sortir le portefeuille, sortir le chéquier, 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars.
Oui.
Pensant là, oui, on aura des filiales en Europe. Non, je plaisante parce qu'on a quand même des gloires locales, on a ST Micro, on en a d'autres, mais 200 milliards de dollars.
Non, et puis les investissements. Alors, je ne sais pas si on est à 200 milliards, mais il y a un plan européen qui se compte en dizaines de milliards aussi. TSMC commence, comme on le disait, à des projets en Europe. C'est sans doute moins ambitieux qu'aux États-Unis, mais il y a une conscience qui a été prise de l'importance de cette industrie en Europe aussi, et les projets sont là. Est-ce que ça sera suffisant ? Je ne sais pas, mais je crois que le but n'est pas forcément de devenir les leaders dans cette industrie, mais le but est d'avoir une capacité qui permettrait de résister à des pénuries pour sauvegarder les éléments essentiels de l'industrie, tu vois. C'est que si on a quelques usines qui fabriquent des puces de la génération d'il y a deux générations, bon, c'est pas les derniers iPhones qu'on va construire ici, mais par contre, si tout à coup, Troisième Guerre mondiale, on peut plus s'approvisionner ni aux États-Unis ni en Chine, on pourra quand même fabriquer des systèmes de guidage de missiles, tu vois, avec des puces d'il y a 5 ans. Je dis ça, mais ou alors des voitures ou des, tu vois, c'est ou des fours à micro-ondes. C'est ok, ça sera pas du 1 nanomètre, ça sera du 5 nanomètres. Donc ça fait rire les super pros de la tech, mais c'est possible. C'est pas que t'as juste pas de puce et que tu dois sortir les pierres à les silex, quoi. Donc toujours dans le futur, est-ce que tu as vu ce qu'a fait Apple sur les audiobooks ?
La petite voix numérique, la petite voix artificielle qui peut te lire des histoires.
Exactement. En fait, ils ont édité des livres audio lus par des voix artificielles, des voix en IA en fait. Et c'est un truc qui est maintenant disponible. Si vous allez sur Apple Books, vous pouvez chercher lu par IA, ou en anglais AI narration, et vous avez toute une série de livres. Alors, c'est pas les plus grands succès de l'histoire de l'édition, parce que les éditeurs sont évidemment très prudents, voire hostiles à ce genre d'initiative, mais Apple édite déjà des livres. Je vous disais l'IA, j'aurais peut-être dû la mettre dans la section IA, ce sujet.
Oui.
Et Apple édite déjà des livres lus par des IA. Et je pense, alors, c'est des livres qui sont qui sont sous copyright. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs genre, tu sais, les romans de gare avec le nettoyeur de la piscine qui vient et qui est un peu virgolé. Donc, tout à coup, la chaleur monte dans le, tu vois, dans les entrailles. Mais tu peux tout à fait imaginer, par exemple, des livres audio. Alors, alors c'est clairement pour les livres audio, mais tous les trucs qui sont, comment dire, pas copyrightés, qui sont, comment dire, du domaine public.
Livre de droit, ouais, du domaine public.
Livre de droit, domaine public. Tu peux avoir des audiobooks comme ça qui sont très facilement produits et du coup qui sont très bon marché. Tu peux avoir, par exemple, des podcasts qui seraient lus par des IA. Je suis un peu...
Des podcasts, tu veux dire le transcript de ton podcast relu par une IA. Cindy était troublée. pardon, excuse-moi. enfin bon.
Mais voilà des produits d'influenceurs. On numérise ma voix avec Vali. Et du coup, je peux vendre des livres lus. On peut choisir la voix qui va lire le livre on the fly, tu vois.
Genre, si alors, tu j'ai, veux vu, lire, j'ai vu un truc ahurissant, assez connexe à ça, d'ailleurs, dont je voulais te parler tout à l'heure. Ça se passe en Inde, où Cadbury, les confiseries, ont fait une opération publicitaire, en gros, un peu post-Covid, pour encourager les commerces locaux. Ils sont allés chercher la plus grande star indienne, Shah Rukh Khan, qu'ils ont filmé, ils ont pris des échantillons de voix, etc., etc., et ils ont utilisé un moteur d'IA pour faire quoi ? Pour faire des pubs pour le digital, pour Internet, pour les apps, etc. Mais des pubs hyper locales qui fassent chacune la publicité d'un magasin local. Si demain vous avez envie de bonbons, allez chez machin au coin de la rue truc. Et à chaque fois, c'est Shah Rukh Khan qui délivre ça en vidéo, évidemment. Ouais. T'es quand même ahuri de voir, tu vois, la plus grande star du cinéma indie en train de te dire va au coin de la rue. Enfin, ils l'ont fait à des centaines et des centaines et des centaines d'exemplaires. Et ça a été un carton absolument extraordinaire. Parce que d'abord, évidemment, tu vois la pub, ça te parle de ton épicier de quartier, tu as envie de la montrer à tout le monde. Enfin, c'est une idée géniale. Je sais pas comment ça a pas été répliqué ailleurs, c'est une idée géniale.
Je pense que ça va être répliqué. Enfin, c'est le genre de truc que tu veux. On me propose dans la chatroom des fanfics de Patrick lus par une IA. Il y a des choses à faire. Hein. Non, mais pourquoi s'arrêter à Patrick ? Des fanfics de Patrick et ses intervenants dans l'émission. Tu vois, là, tout à coup, c'est plus Cindy était troublée, c'est Cédric était troublé.
Tout ce que tu vas pouvoir faire en génératif à partir d'images ou de trucs connus à qui tu vas faire, tu vas faire ingénérer au moteur un univers, pas n'importe lequel, et après, tu vas écrire le scénario de ton truc. T'imagines ce que les fans de Star Trek vont faire, mais je pense qu'ils sont déjà, il y en a qui ont déjà de demi-érections sous le bureau en disant non mais attends, avec les voix et du coup ça va poser un problème qu'on a oublié de poser
mais
tout
oui
à
avec
l'heure.
Juste 3 secondes donc de n'importe qui tu peux avoir
c'est que pourquoi est-ce que Google nous sort pas son équivalent de ChatGPT parce qu'ils l'ont
que Lambda, ça pose un problème bien sûr économique. On en parlait avec l'histoire de Lambda, est-il conscient, etc.
Exactement. Et alors deuxième problème majeur, c'est que tout à coup, là où aujourd'hui tu fais une recherche sur Google et il te donne des liens qui te donnent un chemin vers l'original, j'ai envie de dire, là tout à coup il n'y a plus d'original. C'est-à-dire que c'est Google qui dit ouais, moi j'ai ramassé tout l'internet et maintenant c'est moi qui réponds. T'imagines à quel point ils vont se faire sauter dessus par tous les régulateurs de la planète en disant mais attendez, mais c'est du vol. Oui, mais c'est du vol de qui? Vous pouvez pas.
Bien sûr. C'est déjà un problème majeur avec Midjourney et tous ces générateurs auxquels tu peux demander de créer une image dans le style de tel auteur ou de tel artiste spécifiquement. Bon, tu parles d'autre chose. Là, tu veux dire
tout à fait. Là, je suis désolé. Je viens de faire un demi-tour pour revenir à la lecture précédente, mais c'est autre chose parce que là. Est un truc qui est habitué à se baser sur ce qui a été fait ailleurs, tu vois. Picasso s'est inspiré de tout le monde, etc. Mais sur tout à coup Google qui te dit bah voilà, maintenant moi je vais vous dire c'est ça la réponse, et elle vient à la fois de partout et de nulle part, donc il y a pas de problème de droit, tout m'appartient. C'est plus facile à dire pour ChatGPT qui est un truc un peu expérimental tout ça machin aujourd'hui que pour un Google qui dit alors voilà mon nouveau modèle économique quoi. Donc non, à voir.
C'est sûr. Non, et puis enfin on peut pas tout évoquer, mais évidemment le cadre légal de toutes ces légal moral comment dire pour des questions de justesse, d'exactitude, de vérification. Tout est à repenser, à réinventer. C'est un changement sismique. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de the AI époque. Tu vois, c'est vraiment une ère différente. Tu parlais du coup de cette personnalité qui a été numérisée et donc utilisée pour d'autres choses. Il y avait d'autres sujets sur les comment dire, sur Netflix, etc., peu importe, il y a un article que je vais inclure dans la newsletter, vous pouvez vous y abonner sur notepatrick.com, bien sûr, qui est le push, la manière dont la Chine pousse à la création d'influenceurs virtuels. C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué il y a quelques mois, mais qui est vraiment en train d'être poussé par l'industrie de la tech en Chine en général et même le gouvernement. On a des services qui vous permettent de créer une personnalité virtuelle pour quelques milliers de dollars par an en Chine. Et alors peut-être qu'ils sont plus propices, plus habitués à ce genre d'idées qu'ailleurs, mais l'une des raisons pour laquelle le gouvernement n'est pas du tout contre ce genre de choses, c'est qu'un influenceur virtuel, bah, ça n'a pas d'opinion, ça ne dit pas de choses controversées, tu lui fais dire ce que tu veux lui faire dire. Et quand on dit influenceur, c'est vraiment cette idée de... Alors, soit c'est des personnes en 2D classique, soit c'est carrément des personnalités en 3D modélisées comme un personnage 3D classique dans un jeu ou dans un film ou ce genre de choses. Et tu lui inventes une vie, tu lui inventes des goûts, etc. Et les gens vont se mettre à la suivre ou à le suivre, c'est clairement plus des femmes, mais sur les réseaux sociaux... Et elle joue le rôle d'un influenceur et ensuite, tu vas lui faire faire des deals avec des marques pour mettre en avant tel ou tel truc. C'est super pratique. Elle n'a pas d'avis. Donc forcément, elle ne va pas, tu vois, ce que les édictes du parti, elle va les trouver super ou elle ne va pas les commenter. Elle va rester bien sage, quoi.
Mm-hmm. Donc, ça va éviter de la faire disparaître à la Jack Ma.
Exactement. Et du coup, plus ça va avec l'intelligence artificielle, plus ce genre de choses va être commune, quoi. Bref. Mm-hmm. Je me demande si ce genre de choses va pouvoir prendre en Occident aussi. Je crois qu'on en a moins l'utilité pour différentes raisons, on a moins d'affinité également, mais à un moment, il y a bien un truc qui va prendre aussi, tu vois, au moins une personnalité comme ça qui va émerger. Je pense qu'il y a la place pour une ou deux ou trois de ces personnalités, même chez nous, je crois.
Bien sûr.
À voir. Quoi d'autre? Tiens, je voulais quand même dire un petit peu de bien d'un truc en lien avec Elon Musk. SpaceX, l'année dernière, a fait un lancement, plus d'un lancement par semaine, sans aucun raté. Aucun raté. C'est incroyable. Ils en ont fait 58, je crois, dans l'année.
Non, mais c'est ouf. C'est ça. Moi, à chaque fois, je voyais des tweets en disant « Oui, nouveau lancement de machin. » Et c'est vrai que t'es habitué, historiquement, à un rythme un peu à la Ariane, tu vois, où chaque lancement était un événement. Ouais. Là, c'est fini. Chaque lancement est un TGV. Enfin, tu vois, c'est...
Exactement. Non, mais c'est ça. Et tu dis, mais... enfin, évidemment, c'est pas du tout la même ampleur, la même ambition, machin, mais Artemis, qui a été retardé quatre fois, il y a eu un lancement dans l'année, et c'était la fête. Évidemment que c'est autre chose, clairement. Je veux dire, une mission vers la Lune, c'est pas juste lancer un satellite à 200 kilomètres, mais il n'empêche, tu vois, c'est le contraste est violent. Ça fait 59 lancements dans l'année réussis. Dans l'espace, c'est pas juste qu'ils ont fait un vol d'avion, tu vois, mais...
Non, et puis ça signe le fait qu'ils ont largement, tu vois, affiné le process. Enfin, ils arrivent à industrialiser un truc
c'est ça.
Qui, avant, tenait toujours un peu du petit miracle, quoi.
Quoi d'autre? Bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Il y a un sujet marrant sur le spectacle d'ABBA. Tu as vu ABBA Voyage?
J'en ai vu des vidéos... il paraît que c'est mieux en vrai, où t'as des espèces de, c'est d'hologrammes d'ABBA qui chantent Super Trooper et tout ça. Bon.
C'est des hologrammes d'ABBA. Alors, c'est pas les artistes mêmes qui font le truc. Ils ont participé à l'élaboration de la chose. Mm-hmm. Mais c'est un spectacle avec des hologrammes d'ABBA qui font leur spectacle et leur chant. C'est comme Tupac à l'époque, tu te souviens, quand Tupac était revenu d'entre les morts en hologramme, machin. Mais là, c'est vachement mieux fait. C'est vachement plus crédible. T'as l'impression de les voir sur scène. Et la société suédoise qui a lancé le truc est en train d'exporter le spectacle ailleurs. Et c'est marrant parce que du coup, ils vont faire des tournées d'ABBA Voyage, donc d'ABBA, sans ABBA, mais partout dans le monde. Tu vois, c'est...
Ça résoudrait plein de problèmes. C'est-à-dire que d'un coup, tu vois, Taylor Swift pourrait faire 5 tournées, une par continent, en même temps.
En même temps, oui, non mais exactement, c'est ça. c'est Patrick pourrait faire des podcasts sur... Tu sais, je dis toujours que j'ai pas le temps de faire, moi, de faire des trucs sur plein de sujets différents, machin. Peut-être qu'on peut juste IAifier Patrick et je peux sortir un podcast, 5 podcasts par semaine sur plein de sujets différents. Moi, je regarde juste, tu vois. Alors, les sujets, le script, c'est bon. Ouais, non, mais voilà, ça va. C'est ça,
mais t'imagines ce que ça va nous sortir en termes de production de vidéos YouTube, par exemple. C'est-à-dire que d'un coup, si t'as à ta main un avatar avec ta voix et à qui tu peux copier-coller un résumé d'un truc que ChatGPT t'a fait, tu vois, voilà. Que faut-il penser de, tu vois, tous les trucs qui commencent par que faut-il penser. que doit-on retenir de CES 2023? oui, c'est ça va devenir, c'est comme tous les trucs qui généraient du texte juste pour faire du SEO, tu vois, du référencement, et que tu mettais dans un coin de ton HTML de ton site un peu caché. Là, tout à coup, voilà, demain, tu peux avoir une chaîne avec 500 vidéos sur que faut-il penser de tous les jeux sortis sur l'année, par exemple, un par un.
Ça, c'est vraiment.
Il y a déjà des youtubeurs qui font ça gratuitement, donc pourquoi s'emmerder?
Je crois que c'est vraiment le truc qui va. Ah, j'avais laissé sur l'image de Discord mon image à moi, du coup, on ne te voyait plus depuis tout à l'heure quand tu.
Oh.
Le truc qui va vraiment faire shifter, je crois que ça va être vraiment l'année où on va parler de l'IA tout le temps, mais le truc qui va faire shifter encore plus, c'est le moment où ils trouveront un moyen, je sais pas comment ça va être possible parce que c'est compliqué techniquement, mais ils trouveront un moyen d'intégrer des nouvelles données au réseau neuronal créé par, enfin au réseau de deep learning créé comme ChatGPT. Si tu peux intégrer des nouvelles données plus ou moins en temps réel, avec de l'actualité, du coup, tout à coup, l'utilité devient se décuple, quoi.
C'est... Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, quand tu poses une question à ChatGPT, tu poses une question à un système dont l'actualité s'arrête, je crois, à la fin 2021.
2021, oui, c'est ça.
Voilà. Donc, et il te le dit, d'ailleurs, il dit, attendez, là, pour les current events, je ne suis pas très, très fort. vous me parlez d'une guerre en Ukraine, de quoi s'agit-il?
Ben, c'est ça, le jour où tu peux... intégrer ces données-là aussi, et tu peux dire, bon, dans les, tu vois, ils ont un système qui lui envoie les données toutes les 24 heures. Mine de rien, c'est important aussi pour des trucs comme Bing ou Google ou ce genre de choses, parce que si ton moteur de recherche n'est capable de te donner des réponses que sur des trucs d'il y a 2 ans ou plus, bon, bah, c'est pas aussi utile, quoi. Donc, bref, ça arrivera à un moment. Et on continuera.
Mais c'est bien pour lui faire écrire une chanson de Diams en alexandrin dans le style de Victor Hugo, tu vois. Ça marche.
Ça marche très, très bien. On a tous testé ce genre de choses. Faudra que tu me dises, j'ai pas investigué la chose, comment faire pour Midjourney, pour lui donner une photo existante.
Je sais tu lui donnes le lien d'une photo.
Sur le web, tout simplement.
Sur les internets.
Normalement, le prompt, c'est slash imagine.
Slash imagine.
Machin.
Et là, tu mets le lien d'une photo.
Ah, donc tu et mets après, slash tu imagine que... avec le lien et puis tu lui mets les prompts.
Voilà.
D'accord. Très bien. Bon, bah, c'est très, très simple, en effet. Vous aurez peut-être des avatars. Mais tu sais, en même temps, j'allais dire, ah, ben, c'est pratique, ça va me permettre de me faire faire des avatars super cool pour mes réseaux sociaux, tout ça. Tout le monde le fait.
Ouais.
C'est devenu ringard en 2 semaines.
C'est ça.
Complètement. Mais je veux dire, ça n'a
c'est
plus aucun intérêt.
C'est devenu aussi ringard que de faire écrire l'intro de ton podcast par ChatGPT. C'est dire.
Exactement. Exactement.
On l'a tous fait une fois. Ok, c'est bon, ça marche. Passons à la suite.
Donc, les podcasts lus par des IA, ça sera les trucs pour les pauvres. Écoute, vous aurez la version gratuite du podcast. Pour les gens qui peuvent pas ou qui veulent pas payer, tu vois, les gens qui sont pas des bourgeois, eh ben ça sera lu par une IA, mais la vraie version lue par Patrick avec toutes les nuances de la voix, ça sera uniquement pour les patriotes.
C'est pas mal.
Du coup, je fais quand même le
boulot. C'est double travail.
Ouais. Bon, à réfléchir. Quand je disais 5 podcasts par semaine, il y a Fanny tout à coup qui vient dans la chat room qui commence à paniquer. Mais attends, non, mais on sera riche d'ici là, Fanny.
Et
on
voilà.
Sera riche, on pourra, mais tu, on pourra engager genre des petites mains, 4 personnes en plus pour s'occuper de tout ça. Ça sera notre Patrick Corp. Tu vois?
Ben voilà. Bon. Enfin.
Nous, Fanny, on fera les podcasts qu'on veut, on sera aux Seychelles, tout ça, avec les familles, et puis il y aura les IA qui travailleront pour de vrai dans des ordinateurs, sur des serveurs quelque part ailleurs. Mais je sais pas si ça va vraiment se passer comme ça au final.
Non.
Cédric, tu sais quoi? Le vrai plaisir, c'est de te retrouver dans l'émission pour de vrai, pour parler des IA, mais sans IA qui viennent nous polluer. Cette émission est AI free. Ça sera, tu sais, le sigle de qualité, certifié sans IA. Il faudra un petit, comment, tu sais, une échelle comme l'indice de réparabilité ou la consommation énergétique. Il y aura une échelle, le taux d'IA qu'il y a dans une création. Nous, on sera dans les taux les plus bas, évidemment, parce que on a le plaisir d'avoir Cédric Ingrand avec nous et tous les animateurs qui me font l'amitié et le plaisir de me rejoindre. Pourquoi irais-je les polluer avec des IA fades et artificielles ? Certainement pas. Merci Cédric d'avoir été avec nous.
Un plaisir, un vrai plaisir.
Les auditeurs en veulent plus. Même si tu n'es pas une IA, même si tu n'es pas une IA, tu peux proposer aux auditeurs plus de contenu intéressant et un entertaining, où peuvent-ils le trouver ?
Alors, sur Twitter, si ça vous amuse, @Cédric, et puis Les Doigts dans la Prise, mon podcast sur la voiture électrique autonome et tout le reste, dont un nouveau numéro va sortir. Alors là, j'essaie de les caler à chaque fois sur la sortie du Rendez-vous Tech, mais non, quand même, c'est un peu compliqué. Ce sera la semaine prochaine. Je suis en train de le préparer pour tout vous dire, mais allez écouter tous les épisodes précédents. Les quelques-uns passés, là, sont vraiment très, très bien.
Les Doigts dans la Prise, auquel vous êtes évidemment tous déjà abonnés. Merci Cédric. Pour ma part, c'est NotePatrick. Vous retrouvez tous les liens sur notepatrick.com. Je continue à utiliser Mastodon, d'ailleurs, régulièrement. Ils ont connu une petite baisse d'utilisation, mais pas aussi forte qu'on aurait pu le penser depuis décembre. Donc, ils continuent à faire fort, évidemment. Je suis aussi sur Twitter et les réseaux sociaux en général. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis midi, une heure, ce genre de choses. Bon, généralement, c'est midi pour l'enregistrement en live sur Twitch, toujours NotePatrick. Vous pouvez également aller sur le Discord. Le lien est aussi sur NotePatrick.com et dans les notes de l'émission. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis NotePatrick.com. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Donc, vous avez ça pour rejoindre le Discord et les gens les plus sympas de l'Internet qui s'y retrouvent. Évidemment, le Patreon, patreon.com/rdvtech. Pour soutenir l'émission financièrement et avoir des contenus sympathiques, des émissions sans pub, etc., etc. Vous connaissez la rengaine. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur patreon.com/rdvtech. Ça prend 2 minutes et vous avez le lien dans les notes de l'émission. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. On se retrouve jeudi pour le rendez-vous jeu et puis mardi prochain pour l'épisode suivant. Merci à tous et imaginez le générique dans la tête. Ou alors non, on le rajoutera en post-prod. On va voir avec Fanny, on fera comme ça. Merci à tous. Ciao.